intéresse. Et vous savez que les saints au ciel ne font que cela, voir Dieu. Est-ce qu'on doit s'ennuyer d'imaginer une messe qui dure tout le temps, une messe qui dure l'éternité, ou alors comme ce soir, on va vivre un grand moment avec l'adoration, vous allez voir Dieu à travers le sacrement du corps du Christ, c'est-à-dire la présence réelle du corps ressuscité de Jésus, mais sous les aspects seulement du pain consacré. Eh bien, c'est ce qui se passe au ciel. On ne fait que cela, voir Dieu. Et là maintenant, je voudrais vous parler de l'Esprit Saint, mais je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit ce matin par rapport à quelques questions, et en particulier, parce que l'Esprit Saint, c'est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu, et l'Esprit Saint vient en nous. Donc il y a Dieu, c'est un peu compliqué, il y a Dieu en nous, et nous aussi en Dieu, puisque Dieu nous aime, donc nous sommes dans le cœur de Dieu. Je vous ai dit, Jésus a dit dans l'évangile, celui qui mange ma chair et boit mon sang, c'est-à-dire celui qui vient à la messe le dimanche, qui communie au corps du Christ, celui-là, eh bien, demeure en moi et moi en lui. Voilà. Pensez que nous sommes faits pour nous aimer les uns les autres, et quand vous aimez quelqu'un, je pense que déjà à votre âge, vous êtes capable d'aimer quelqu'un, eh bien, vous portez cette personne dans votre cœur.
Monsieur, ce qui va faire, je m'énerve là. Qu'est-ce que ça veut dire ce bruit de fond incessant ? Il y a un temps pour tout ? Donc là maintenant, c'est pour écouter. D'accord ?
Quand vous aimez quelqu'un, vous portez quelqu'un dans votre cœur. Et si quelqu'un vous aime, eh bien, vous êtes porté dans le cœur de cette personne-là. Donc vous êtes, en particulier vis-à-vis de Dieu, Dieu qui vous aime, vous êtes complètement dans le cœur de Dieu, déjà. Même si vous êtes mal aimable, ça peut se faire qu'on soit resté méchant. Par exemple, vous avez tous reçu votre baptême. Le jour où vous avez été baptisé, je suis sûr que vos parents se sont dit bon, « Ouf, maintenant qu'il est baptisé, il va devenir gentil. » Par exemple, quand vous êtes petit bébé, vous n'arrêtez pas de pleurer, de crier, de brailler, et vos parents se sont sûrement dit bah, « Maintenant qu'il est baptisé, ça va aller mieux. » Eh bien non, rien n'est changé. C'est bizarre ça. Donc on reste un petit peu retors à la grâce, à l'amour que Dieu nous donne. Mais pourtant Dieu nous aime. Même les pires méchants, Dieu les aime. Et donc nous sommes complètement dans le cœur de Dieu. Et il y a Dieu aussi en nous. Ça c'est absolument ce que vous devez intégrer pendant ce week-end à Montlignon. Non seulement vous, vous êtes dans le cœur de Dieu, mais il y a aussi Dieu en vous. Et c'est ça l'Esprit Saint. C'est ça le don de l'Esprit Saint. Et plus vous aimerez Dieu, et plus vous connaîtrez Jésus, et plus vous saurez aimer Jésus. Et aussi, plus vous aimerez les autres, et bien plus vous accueillerez le don de l'Esprit Saint en vous, donc plus vous accueillerez Dieu lui-même, et Dieu vivra, pourra vivre en vous. À tel point que vous, dans votre liberté, vous pouvez laisser une place totale au Christ. Ce que je vous ai dit, par exemple, des saints. On est tous appelés à être saints en accueillant tous le don de l'Esprit Saint. Il y a un saint qui a dit... Saint Séraphin de Sarov qui a dit l'essentiel de ma vie chrétienne, c'est acquérir l'Esprit Saint. Quel est le but ? À quoi ça sert d'être chrétien ? Eh bien, ça sert à une seule chose, accueillir l'Esprit Saint dans mon cœur, dans ma vie. Si bien que ce que je vous ai dit à ce moment-là, le Christ vit en moi et moi dans le Christ. Et alors, c'est qui moi et qui est Jésus, qui est moi, on sait plus qui est qui dans cette affaire-là. Eh bien, c'est pleinement moi, avec toute ma liberté et mes capacités, qui accueille Jésus dans mon cœur. Je vous dis de la même manière que quand vous aimez quelqu'un, vous êtes totalement dans cette personne-là, et la personne que vous aimez, vous la portez complètement dans votre cœur. Ça ne vous empêche pas d'être vous-même. Ça ne vous détruit pas, ça ne vous annihile pas. Demeurez vous-même, et c'est en demeurant soi-même qu'on peut accueillir l'autre en soi. Donc, dans notre cœur, il y a de nombreuses demeures, si vous voulez. On est plusieurs, on est rassemblés dans la même, dans l'unité du Christ. C'est assez mystérieux, il n'y a pas beaucoup de termes pour expliquer ça. Sinon, le mot de communion. Nous vivons dans la même communion, la communion des saints. Quand vous allez à la messe, vous communiez au corps du Christ. Vous voyez, même le corps, même notre dimension charnelle, même notre corps, qui doit pourtant mourir, rentre dans cette communion des saints, puisque nous communions, nous nous nourrissons de la vie du Christ en communiant au corps du Christ. Ça c'est une belle image, notez ça, c'est nous nous nourrissons de la vie du Christ. Et figurez-vous que le Christ se nourrit de notre vie. intercommunion de l'un dans l'autre, qui fait que ça ne nous détruit pas, mais ça nous transforme. Nous nous nourrissons.
Au titre de l'exposé, hein, cet après-midi, on était découverte de la personne de l'Esprit-Saint. Découverte de la personne de l'Esprit-Saint.
Excusez-moi, je vais le dire. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit ce matin, mais c'est une introduction à la découverte de l'Esprit-Saint. Nous nous nourrissons du corps du Christ, si bien que nous le Christ et moi, finalement, c'est tout un. Et je reste parfaitement moi-même, et en même temps, je suis le Christ. Vous savez ce que signifie le mot Christ? Vous l'étudierez, je pense, dans votre... Le mot Christ, je l'écris pas, vous pouvez le noter, ça veut dire « celui qui est rempli de l'Esprit-Saint ». Le mot Christ veut dire celui qui est rempli de l'Esprit-Saint. C'est le même mot que le mot Messie. Mais le Messie ou le Christ, ça veut dire la même chose. Mais Messie, c'est un mot hébreu. Christ, c'est un mot... pas latin, non. Grec. Comment on dirait en latin? Ou en français? En français, on dirait oint. Participe passé du verbe oindre. Ou alors on dirait, donc en latin on dirait onctus, celui qui a reçu l'onction. Voilà. Ça ne se dit pas tellement, c'est pas très joli, c'est pour ça qu'on utilise le mot grec, Christ. Et nous, on dit qu'on est des chrétiens, c'est-à-dire autre Christ. En latin, saint Augustin a dit Christianus alter Christus. Le chrétien est un autre Christ. Il n'y a pas de différence entre nous et le Christ dans la mesure où nous avons accueilli le don du Saint-Esprit. Alors dans l'Évangile, on a découvert que quand Jésus était là au milieu de ses apôtres, eh bien, il était un homme comme tout le monde, mais il avait ceci de différence, c'est qu'il était rempli de l'Esprit-Saint, alors que les hommes cherchaient à acquérir l'Esprit-Saint. Celui-ci, Jésus, était rempli d'Esprit-Saint. Par exemple, vous avez, donc je vous donne une référence. On ne va pas aller la voir, vous notez la référence, vous irez la voir tout à l'heure pendant le temps de Lectio Divina, qu'on vous laissera. Au moment où Jésus a été baptisé, il était plongé dans l'eau, et quand il est ressorti, il s'est produit quelque chose. Il est apparu au-dessus de la tête de Jésus, dans les cieux, une colombe. Mais en fait, l'Évangile ne dit pas « il est apparu une colombe ». Il est dit « il y avait l'Esprit-Saint sous la forme d'une colombe ». Ce n'est pas la même chose. Donc en Matthieu 3, versets 13 à 17, le baptême de l'Esprit-Saint, de Jésus. Jésus n'a pas été baptisé comme nous. Jésus n'a pas été baptisé comme nous. Nous, on est baptisés pour que justement l'Esprit-Saint nous rentre dessus. Mais Jésus, lui, il a été baptisé, non pas pour recevoir l'Esprit-Saint, il a été baptisé pour révéler aux hommes qu'il était rempli de l'Esprit-Saint. C'est exactement l'opposé. C'est parce qu'il était rempli de l'Esprit-Saint qu'en rencontrant Jean dans le désert, il a eu, c'est Saint Jean surtout, qui a eu cette révélation qu'il était rempli de l'Esprit-Saint. Matthieu 3, 13, 17. Ensuite, Jésus, dans l'Évangile, a sans cesse parlé de l'Esprit-Saint qui devait être donné aux hommes. Et en fait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, il y a Dieu et vous recevrez une force de Dieu, vous recevrez quelque chose de Dieu, vous avez quelque chose de nouveau à recevoir qui doit vous rendre vivant, qui doit vous vivifier, qui doit vous réjouir aussi, qui doit vous fortifier, qui doit, enfin, si vous restez comme cela seul, eh bien, il ne se passera rien dans votre vie. Vous avez besoin que votre vie soit transformée par quelque chose de Dieu qui viendra d'en haut et qui descendra sur vous. Alors, par exemple, il le dit en Jean. Il y a plusieurs références comme ça. Regardez Jean 4, versets 10 à 14. Dans ce passage de l'Évangile, Jésus rencontre une femme qui est de Samarie, donc on appelle la Samaritaine. Et puis, Jésus était dans le désert de Samarie, au bord d'un puits, vous connaissez l'histoire, et puis il attendait, voilà. Et puis voilà cette femme qui arrive, Jésus, on dit qu'il était fatigué, peu importe. Cette femme arrive pour puiser de l'eau au puits, normal, un puits c'est fait pour puiser de l'eau. Et puis Jésus lui pose cette question, lui demande, ô femme, donne-moi à boire. Vous connaissez l'histoire? En fait, Jésus n'avait pas soif du tout. Il disait ça pour engager la conversation avec la femme. Donne-moi à boire. Et puis, alors elle est un peu surprise, la femme. Et finalement, Jésus lui dit, j'ai pas besoin de ton eau. Par contre, toi, tu as besoin de mon eau. Et il lui révèle qu'il y a une eau, qu'il appelle une eau vive, qui doit comme jaillir du cœur de Dieu, qui doit être donnée aux hommes, et qui va nous donner la vie éternelle, ni plus ni moins. Et il se montre à cette femme en disant, mais pour cette eau vive, il n'y a pas de puits, ou plutôt le puits, c'est moi. Moi, je suis le Christ, celui qui est rempli d'Esprit Saint, et c'est moi qui donnera à tous de cette eau vive, de cette eau divine. Le fait qu'il utilise l'image de l'eau, ça nous rappelle le baptême. Eh bien, Jésus, comme ça, se révèle celui qui est rempli d'Esprit Saint et celui qui nous donnera l'Esprit Saint. Alors, sous la forme, ici, il utilise l'image d'une eau vive. À plusieurs reprises, il utilise l'image de l'eau vive qui doit nous vivifier. Parce que l'eau, c'est quelque chose de vital. En particulier, dans le désert de Samarie, il fallait de l'eau pour vivre. Donc, les gens étaient tout à fait capables de comprendre que, comme on avait, de même qu'on avait besoin de l'eau pour vivre la vie de tous les jours, ce que Dieu va nous donner pour nous permettre de vivre toujours avec lui, eh bien, on appelle ça aussi de l'eau. Voilà. En fait, c'est pas de l'eau, c'est l'Esprit Saint. Et un autre passage aussi de l'Évangile, celui-là, je vais vous le lire, c'est dans le chapitre 7 de Saint Jean. C'était au moment de la fête de la Pentecôte, donc la Pentecôte des Juifs, pas la Pentecôte des chrétiens, puisque les chrétiens n'existaient pas encore, il n'y avait que des Juifs, Jésus était juif. La fête de la Pentecôte, elle, en revanche, existait. Vous savez que le jour de la Pentecôte, c'est le jour où les apôtres ont reçu l'Esprit Saint. Donc, avant le grand jour de la Pentecôte où l'Esprit Saint serait donné aux apôtres, donc c'est-à-dire l'année d'avant, un an avant ou deux ans avant peut-être, à la fête de la Pentecôte des Juifs, Jésus était à Jérusalem pour la fête. Et puis voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il dit. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout. Imaginez la scène parce qu'elle est assez solennelle. Imaginez Jésus debout comme s'il montait sur une table. Jésus, debout, s'écria, comme ça il parlait dans le temps, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. » Selon le mot de l'Écriture, de son sein, de son cœur, couleront des fleurs d'eau vive. Et Saint Jean, dans l'Évangile, commente, « Il parlait de l'Esprit et devait recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » L'Esprit Saint, on a découvert qu'il était complètement dans Jésus et que Jésus ne pourrait nous le donner que lorsqu'il aurait vécu sa passion, sa mort et sa résurrection. Donc c'est seulement après le mystère du Christ, l'accomplissement du mystère du Christ, la fête de Pâques, l'année suivante, que Jésus, mort et ressuscité, dans la gloire du ciel, pourra nous envoyer l'Esprit Saint d'en haut. Et c'est ce qui s'est passé donc à la Pentecôte. Voilà, les apôtres ont tout découvert cela, progressivement, cette existence de l'Esprit Saint. Alors, on peut poser la question... Pourquoi il y a Dieu en trois personnes? En fait, Dieu est Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais on a découvert qu'en Dieu, il y avait cette vie de Dieu, cette vie divine. Et quand Jésus est venu sur terre, il s'est révélé être rempli de la divinité, rempli de Dieu, donc, ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Mais c'est bien un seul Dieu, et qui se distingue en trois personnes, c'est-à-dire trois personnes. Il n'y a pas d'autre mot pour expliquer ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais le Père, c'est Dieu. Dieu est Dieu et le Père est tout Dieu. Et tout Dieu est Père, on pourrait dire. Et puis, comme il y avait un homme, Jésus, qui était rempli d'Esprit Saint, bien, en tant qu'il est rempli d'Esprit Saint, on a reconnu en Jésus une deuxième personne en Dieu qui s'est incarné, qui est devenu homme. Et puis, la troisième personne, c'est pas, ben, tiens, si on en mettait une troisième, ce serait pas mal. C'est parce que cet Esprit Saint, qui est Dieu, totalement Dieu, qui se répand partout, eh bien... Si vous voulez, quand Jésus était sur terre, c'est pas Dieu, enfin Dieu est resté au ciel, là où est Dieu, enfin, dans un monde tout à fait autre d'une autre, de la création. Dieu n'est pas créé, Dieu est le créateur. Donc il y a un monde du créateur, là où habite Dieu, là où est Dieu, ce qu'on appelle le ciel. il y a le monde de Dieu, et voilà. Et quand Jésus était sur terre, bien, Dieu n'avait pas quitté le ciel. Il y avait toujours un Dieu au ciel, et les hommes qui priaient Dieu sur terre, bien, ils rejoignaient Dieu, évidemment. Voilà. Et pareil pour l'Esprit Saint. Aujourd'hui, l'Esprit Saint est dans le cœur de chacun. L'Esprit Saint est dans votre cœur, il est dans mon cœur, mais c'est pas pour autant que Dieu a quitté le ciel. Donc c'est comme ça qu'on distingue les trois personnes de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais donc c'est bien un seul Dieu, et quand on a l'Esprit Saint, on a tout Dieu. À la fois Père, Fils et Esprit Saint. Voilà, on a les trois en même temps. Et on est en relation, en communion. On est établi dans une amitié avec les trois en même temps. Alors, voilà. Donc Jésus s'est révélé devant les hommes comme rempli de la divinité, ce qu'on dit rempli d'un esprit saint, d'un esprit divin. Ah, le mot saint, est-ce que vous savez ce que veut dire le mot saint? C'est ça qu'il faut expliquer. C'est encore très compliqué. Je sais que vous l'écrivez, saint. Personne ne sait. Ah ben, j'ai écrit en latin, non, direct. Sanctus. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un mot français, sanctus? Oui, tous les dérivés du mot saint. Saint, sanctifié. Il y a un autre mot qui n'a rien à voir. Sanctuaire, c'est un dérivé du mot saint. Un autre mot qui n'a rien à voir et qui ressemble, qui commence pareil. Sanct. Non, pas le sang, pas sanctifié. Sanction. Très bien. C'est quoi une sanction? Voilà. Vous avez tout de suite le réflexe sanction égale punition, c'est pas vrai? Une sanction, c'est quelque chose qui tranche et qui sépare. On pourrait, quand vous recevez une récompense, un compliment, on peut dire quand quelqu'un vous dit eh bien, un tel a fait ceci et ça lui a, voilà, il n'y a que ses mérites qui sont valorisés. Voilà. Telle personne a fait telle belle chose, on lui donne une récompense, ça la met hors des autres. Ça la sépare des autres. Alors, on donne des sanctions pour punir, mais on peut donner aussi des sanctions. Hein, quand le juge rend la sanction, c'est pas forcément pour condamner, c'est aussi pour acquitter. Toujours, il y a une sanction qui sépare du reste. Donc, une sanction, ça ne veut pas dire punir, ça veut dire au contraire prendre la personne et la mettre hors des autres. La séparer des autres. Bien, le mot saint, c'est ce que ça veut dire. Le mot saint, ça veut dire séparer. En un mot, ça veut dire pas comme tout le monde. Pas comme tout le monde, enfin, pour le dire en un mot, c'est le mot saint, et pas comme tout le monde, c'est l'explication du mot saint. Celui qui est saint, c'est celui qui n'est pas comme tout le monde. Or, celui qui est tout autre, celui qui est absolument différent, celui qu'on ne peut pas connaître parce qu'il est vraiment radicalement différent de nous, c'est qui? Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, d'où le désir de Sainte-Thérèse, je veux voir Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Alors, comme on n'a jamais vu Dieu, on l'appelle, ben, il n'est pas comme nous. Donc on dit qu'il est différent, il est tout autre. Et ben, le mot saint veut dire différent, tout autre, qui n'a rien à voir avec nous, séparé de nous, sans relation possible avec nous, sans communion possible avec nous, tellement il est séparé. Il y a une séparation radicale entre Dieu et nous. Je ne sais pas si je comprends. Et c'est ça, et même Dieu est tellement tout autre qu'il n'est pas seulement saint. On dit qu'il est, vous savez, Dieu est. Non. Dieu n'est pas seulement saint, Dieu est. Ah. Allez voir, quelqu'un va dans une Bible, va voir Isaïe 6. Je vais vous dire le verset. Isaïe 6, 3. Vous connaissez Sabaoth, hein?
Yahvé Sabaoth,
c'est-à-dire Yahvé, Dieu des armées. Saint, saint, saint. Trois fois saint. Allez, ça va. Trois fois saint, ça veut dire qu'il est vraiment, mais alors, il n'a absolument rien à voir avec nous, complètement séparé de nous, et nous, complètement séparés de lui, c'est surtout ça, quoi. Il n'y a pas de ses doigts, je l'ai pas. Ça sert à tout un mouchoir. Je vais vous faire Dieu. Là, c'est Dieu. Dieu, je mets dans un rond. Et puis je vous dis que Dieu est radicalement séparé de nous. les sanctionner. Non, c'est nous plutôt qui sommes sanctionnés. Les trois fois sanctionnés. Donc je mets trois barrières. Vous savez, dans l'islam, vous connaissez peut-être un petit peu les musulmans, dans l'islam, on dit qu'il y a 100, écoutez un peu, 100 manières de connaître et de nommer Dieu. Il y en a 99 qui sont révélées, et le centième nom de Dieu n'est pas révélé dans l'islam. C'est très significatif de l'islam, qui dit qu'on ne peut pas connaître Dieu. Parce que Dieu est trois fois saint. Parce que Dieu est radicalement séparé de nous. Et dessous, c'est nous. Nous, on est créés, la création. C'est Dieu qui a créé, mais on n'est pas Dieu. Il y a une différence radicale. Donc Dieu est trois fois saint. Mais ce qui s'est passé, c'est que sur Terre, ici, là, il y a la Terre. Voilà, la Terre, quoi. Avec la Terre est plate, hein. les forêts, les arbres, les animaux, et puis nous, l'homme. L'homme sur Terre. Eh bien, un jour, il y a eu un truc bizarre qui s'est produit. Vous me suivez ? Eh bien, il y a quelqu'un qui n'était pas comme les autres ici. Il était plus grand. Il s'est passé quelque chose de pas normal. Au niveau de la création, au niveau de l'humanité, au niveau de la famille humaine, il y a eu un homme qui n'était pas comme les autres. Donc on l'a dit, ben, il est saint. Puisqu'il est pas comme les autres. Et c'est le Christ rempli de l'Esprit Saint. Il y a quelque chose de Dieu là qui lui est tombé dessus. Voilà, c'est ce qu'on appelle la colombe. Alors je ne sais pas dessiner une colombe. Voilà, désolé ma colombe. Voilà. Vous pouvez applaudir quand même, ma belle colombe. Merci, c'est bien, vous suivez. Donc, dès qu'on a vu Jésus, on a compris qu'il était rempli d'Esprit Saint et qu'il venait de Dieu, ben ça a défini Dieu en trois personnes, mais c'est bien un seul Dieu. Donc Jésus, celui-là, là, donc j'ai dit, il est mort et ressuscité, donc il est descendu profondément jusque dans la mort, et puis il est remonté jusqu'au ciel. Maintenant, là, c'est encore plus bizarre, il y a un homme. C'est encore plus bizarre, ça. En Dieu, il y a un homme. Eh bien oui, Jésus est monté au ciel. D'un coup, on a vu un homme qui était Dieu, déjà pas normal, mais maintenant, c'est encore plus pas normal, c'est qu'il y a un homme qui est au ciel, là où est Dieu. Eh bien, figurez-vous que quand vous recevez l'Esprit Saint, au fur et à mesure, de bleu créé que vous êtes, vous devenez rouge, en passant par le violet, c'est pour ça qu'en carême on prend violet. Eh bien, de bleu que vous êtes, vous devenez rouge, c'est-à-dire que l'Esprit Saint va aussi sur vous. Donc mon feutre là, non, c'est plus bien. L'Esprit Saint descend sur vous, et puis un jour, ben ça c'est la promesse qu'un jour, comme Jésus, hop, vous montrez avec votre corps. Alors voilà l'Esprit Saint. C'est celui qui nous transforme de bleu en rouge. Il fait qu'on est créé, mais qui nous sanctifie, qui nous sépare du reste, qui nous fait comme Dieu, être comme Dieu. Alors, comment est-ce qu'on fait pour recevoir l'Esprit Saint? On fait sa confirmation. Ben non, bien avant, vous avez été baptisé. Le jour de votre baptême, vous avez reçu le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être baptisé? Avant de recevoir le baptême, qu'est-ce qu'on demande aux néophytes? De croire, bien sûr. La foi. Notez ça. Les moyens de recevoir l'Esprit Saint. Vas-y, parle. Non. Quand on a été baptisé à 9 mois, on n'est pas capable de faire une profession de foi. C'est pour ça qu'on a un parrain qui l'a fait en notre nom. Et c'est pour ça qu'un jour, on vous fait faire une profession de foi pour que, finalement, vous fassiez cette profession de foi que vous auriez dû faire au jour de votre baptême. Donc la profession de foi que vous avez faite, vous avez sans doute fait une profession de foi, bien c'était pour faire la profession de foi du baptême. C'était un déploiement des rites du baptême. Donc dans les moyens d'acquisition de l'Esprit Saint, la première chose c'est la foi. Croire. Vous irez voir Matthieu 16, 13, 20. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Verset 13 à 20. Dans ce passage de Matthieu, c'est la profession de foi de Pierre, le premier des apôtres. Matthieu 16, 13 à 20. Matthieu 16, 13, 20. Écoutez un peu. Dans ce passage, Jésus pose la question à ses apôtres. Pour vous, qui suis-je? Et puis Saint-Pierre, le premier, parce qu'il est un peu le chef, lui répond en disant, tu es le Christ, le Messie, celui qui est rempli de l'Esprit Saint. Celui qui vient de Dieu, qui descend du ciel, comme ça. Et puis Jésus lui dit, ah Pierre, Simon, non, c'est pas ça, bien après ça. Simon, fils de Jean, tu as reconnu que moi je suis Jésus, fils de Dieu. Eh bien, si tu as reconnu que moi je suis le Christ, si tu crois que moi je suis le Christ, cela ne t'a pas. Tu l'as pas deviné tout seul. C'est pas ton père, Jean. Il le dit bien, Simon, tu es fils de Jean. C'est pas ton père qui te l'a transmis. C'est pas une connaissance humaine. C'est pas un savoir humain. C'est Dieu directement qui t'a permis de croire que je suis le Christ. C'est-à-dire que vous ne suivez pas du tout là. Je vous dis quelque chose de très important. Jésus dit à Pierre, à ce moment-là, il l'appelait encore Simon. Tu es Simon, fils de Jean. Et vous savez, quand on sait quelque chose, tout ce que vous apprenez au collège, ben, c'est les profs qui vous le disent. Ou alors c'est vos parents qui vous le disent. Ben, vous n'inventez rien, vous ne découvrez rien, vous ne faites que répéter ce qu'on vous dit. Sauf quand vous croyez. Quand vous touchez Dieu, quand vous croyez Dieu, quand vous dites « Je crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, celui qui est tout autre, qui est saint au milieu de nous, vivant, ressuscité de la vie immortelle, éternelle, au milieu de nous. » Quand vous dites ça, quand vous êtes capable de dire ça, ce n'est pas un savoir humain. Ce n'est pas une transmission humaine. C'est directement l'Esprit Saint qui vous permet de poser un acte de foi. C'est très important ça, de comprendre ça. Jésus dit, heureux es-tu Simon, parce que tu as deviné que j'étais, tu as compris que j'étais le Christ. Si tu sais cela, c'est mon Père qui est au ciel qui te l'a révélé directement. Il y en a qui disent qu'ils n'ont jamais eu de révélation de Dieu. Bien, chaque fois que vous croyez que j'étais le Christ, vous avez une révélation de Dieu. L'acte de foi que vous posez est un acte divin. Donc, qui a sa source dans l'Esprit Saint qui est en vous. À chaque fois qu'on pose un acte de foi, c'est une révélation qui nous est faite de Dieu, qui nous permet de croire. Donc,
c'est bien la référence, hein? Matthieu 16, chapitre 16, verset 13 à 20.
C'est très important de comprendre ça, que quand vous posez un acte de foi, vous posez un acte divin. Comment un homme peut-il poser un acte divin? Un homme ne peut poser que des actes humains. Et bien là, la foi, si vous êtes intelligent, si vous avez un peu de catéchisme, là, si vous avez normalement, ça fait longtemps que vous avez fait votre catéchisme, vous devez savoir qu'il y a trois actes que nous sommes capables de poser qui sont des actes divins. Trois actes. C'est très très dur, c'est pour les forts en catéchisme que je pose cette question-là. Il y a trois actes que nous sommes capables de poser, qui ne sont pas des actes humains, mais qui sont des actes divins, c'est-à-dire que des actes qui nous permettent de toucher Dieu, de rejoindre Dieu, d'être sanctifié. Donc je vous ai dit déjà, le premier c'est la foi. Alors quels sont les deux autres? La foi, l'espérance et la charité. Merci. Alors ça, notez-le. La foi, l'espérance et la charité. Le fait d'aimer. La charité, c'est pas, tiens, je sors mon porte-monnaie pour donner un centime au clochard à la sortie de l'église. C'est pas ça, la charité. La charité, c'est la communion dont je vous parlais tout à l'heure, que j'accueille l'autre en moi et que l'autre m'accueille en lui. Et tout cela avec le Christ. Foi, espérance, charité. Sur votre petit livre, vous mettez une accolade et vous écrivez à côté que ce sont les trois vertus théologales. Vertus, V-E-R-T-U-S. Les trois vertus théologales. T-H-E-O. Logales. Théologales. Les trois vertus théologales, ce sont les actes divins. Alors, à chaque fois que vous espérez, alors ça ne veut pas espérer, ça ne veut pas dire j'espère qu'il fera beau demain, j'espère qu'il fera beau jour de la confirmation, parce que j'aurai ma belle robe, alors. Non, espérer, ça veut dire j'attends que Dieu me donne sa grâce. Et aimer, bien, c'est être en communion avec Dieu d'abord et nos frères ensuite. Donc voilà, c'est trois moyens d'acquérir l'Esprit Saint. La foi, l'espérance et la charité. Mais il y en a d'autres encore. Tout c'est la vie théologale. Et puis, la vie dans l'Église. Alors là, c'est facile, ce sont... On est imprimé, comment dire... Notre vie est imprimée d'actes de l'Église, que sont les sacrements. Donc vous connaissez les sept sacrements. Il n'y en a pas toujours les mêmes. Il y a vraiment des forts catéchismes. Félicite. Alors, le premier, on va essayer de les nommer tous dans l'ordre. Je vais dire qu'ils ont un ordre. Le baptême. Le deuxième. Non, vous l'avez dit, mais j'entends tout en même temps, donc plutôt. Non, le deuxième sacrement.
La réconciliation. La confirmation.
La confirmation. Vous avez une très jolie image dans votre livre, je ne sais plus quelle page c'est, autour de la page 50, mais c'est pas page 50, c'est avant l'emploi. Page 56. Avant qu'on faisait la confirmation, avant, mais il n'empêche que la confirmation, non, mais ça n'a pas d'importance, l'ordre dans lequel vous le recevez, mais il y a quand même un ordre logique. Dans l'ordre, le baptême, ensuite la confirmation qui affermit la grâce du baptême, et seulement après l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie c'est le sommet, c'est la finalité de tout, c'est la communion. Mais l'Église a le droit de vous donner déjà le sommet, alors même que vous n'êtes que bancal sur une seule jambe. Et vous voyez bien sur votre petit dessin, page 56, que vous avez besoin du baptême et de la confirmation pour mettre l'Eucharistie en clé de voûte, au sommet. C'est la finalité de l'Eucharistie. La finalité de notre vie chrétienne, c'est d'être en communion avec Dieu, et l'Eucharistie, c'est la communion. Mais pour pouvoir être établi dans cette pleine communion, il faut ces deux sacrements, le baptême et la confirmation. Simplement, on vous autorise à recevoir le sacrement de la communion avant même d'être confirmé, parce que ça peut vous aider, et donc tous les secours sont bons à prendre. Vous comprenez? Mais le baptême et la confirmation, ce sont les deux premiers sacrements fondamentaux qui fait que bien, nous sommes baptisés et nous sommes fortifiés dans la grâce du baptême avant d'atteindre la communion. Donc ces trois sacrements, baptême, confirmation, Eucharistie, c'est les sacrements qu'on appelle l'initiation chrétienne. Ensuite, vous avez il y a ce qu'on appelle des sacrements de guérison. le sacrement de la réconciliation, quand on se confesse, et le sacrement des malades. Donc dès qu'on est un petit peu faible, que ce soit faible dans mon âme et que je fais des péchés, ou faible dans mon corps et que je tombe malade jusqu'à mourir, eh bien il y a un sacrement qui vient fortifier mon âme pour que je ne pêche plus, et un autre sacrement qui vient fortifier mon corps pour que je ne meure pas, puisque finalement on ressuscitera. Donc dans l'espérance de la résurrection, les sacrements sont donnés dans l'espérance de la résurrection. Alors ouais, ces deux sacrements aussi donnent la force de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui vient en nous pour nous pardonner nos péchés, pour guérir mon âme, et pour faire en sorte que ma vie demeure dans la communion avec Dieu. Et puis, le sacrement des malades aussi, évidemment, jusqu'au jour où je ressusciterai avec mon corps vivant éternellement. Alors, voilà. Et puis ensuite, il y a encore deux sacrements qui structurent la vie de l'Église. C'est le sacrement du mariage, et puis le dernier, le sacrement de l'ordre, l'ordination. L'ordre. Alors celui-là, il est vraiment spécial, parce que le sacrement de l'ordre permet de recevoir les autres sacrements. Pour être baptisé, il faut un prêtre. Pour faire l'Eucharistie, il faut un prêtre. Pour vous marier, il faut un prêtre, un diacre. C'est le sacrement de l'ordre. Donc le sacrement de l'ordre, c'est un sacrement qui structure vraiment l'Église, qui permet de recevoir tous les autres sacrements. Écoutez-moi, je vais vous dissiper encore un peu. Le sacrement de l'ordre, les prêtres, ceux qui reçoivent ce sacrement, être diacre, prêtre ou évêque, on reçoit l'Esprit Saint, bien sûr, qui doit normalement, comme quand on reçoit le baptême, ou comme quand on reçoit la confirmation, ou comme quand on communie au corps du Christ, tout simplement, l'Esprit Saint nous sanctifie. Donc, quand on est ordonné diacre, ou prêtre, ou évêque, on est sanctifié. Mais il y a une autre utilité au sacrement de l'ordre, qu'il n'y a pas dans les autres sacrements. C'est que au moment du sacrement de l'ordre, il y a un rite spécial, qu'on ne fait pas dans les autres évidemment, on nous remplit les mains, on nous oint, on fait une onction sur les mains avec le Saint-Esprit. Pardon. Avec le Saint-Crème. C'est le Saint-Esprit, le Saint-Crème. Dans votre confirmation, on va vous oindre le front, c'est-à-dire la partie la plus digne de votre corps, là où, c'est pas là où est l'âme, mais c'est pour signifier l'âme, on va remplir votre âme de l'Esprit Saint, en oignant votre front du Saint-Crème. Les prêtres ont eu les mains ointes par le Saint-Crème, c'est-à-dire les mains remplies de l'Esprit Saint, c'est capable ensuite de transmettre l'Esprit Saint. C'est utile, une main. C'est pas quelque chose qui va forcément sanctifier tout mon être, c'est le but quand même, mais vous pouvez très bien avoir un prêtre qui soit un mécréant, mais il aura quand même les mains saintes pour être capable de transmettre l'Esprit Saint. C'est important de faire cette distinction. Le prêtre, c'est un outil entre les mains de Dieu pour donner l'Esprit Saint. Quasiment, vous ne pouvez pas recevoir l'Esprit Saint sans les prêtres. Quasiment. Parce qu'en fait, l'Esprit Saint est plus libre que nous. Et dans les Actes des Apôtres, par exemple, il y a eu un moment où Saint-Pierre lui-même a assisté à la tombée de l'Esprit Saint sur des gens qui n'avaient jamais été baptisés. Donc ils ont reçu l'Esprit Saint sans les mains des prêtres. Donc ça peut se faire quand même. Et dans l'ordre normal des choses, bien, non, on reçoit l'Esprit Saint grâce aux prêtres, à travers les gestes que posent les prêtres sur vous, que sont les sacrements. Donc le jour de votre baptême, le prêtre qui a la main qui sert à Dieu à la sanctifier, bien, vous a posé la main sur la tête. Le jour où vous vous confessez, quand vous demandez pardon à Dieu pour vos péchés, que Dieu vous pardonne vos péchés, le prêtre vous impose les mains de nouveau. Quand on veut consacrer le pain et le vin à l'Eucharistie, on impose les mains. Et à chaque fois, on utilise notre main pour sanctifier les choses, sanctifier les personnes, sanctifier le pain qui deviendra le corps du Christ, etc. On a un pouvoir dans les mains du prêtre pour transmettre l'Esprit Saint. Et la main, c'est utile. Ça ne touche pas forcément mon cœur. Je peux être grand pécheur, mais quand même être capable de vous sanctifier. Ça, c'est important. C'est ça. Oui. Alors voilà, j'ai dit l'essentiel. J'espère que vous avez bien compris Dieu, la sanctification, qui est Dieu trois fois saint, la possibilité que j'ai moi de recevoir l'Esprit Saint par les vertus théologales et par les sacrements de l'Église. Je voudrais juste rajouter une dernière chose. Vous irez lire dans Matthieu, chapitre 25, je crois que c'est le dernier verset du chapitre 25 de Matthieu. C'est verset 31 et suivant.
Matthieu, chapitre 25.
Et suivant jusqu'à la fin du chapitre. Dans ce passage de l'Évangile, Jésus dit quelque chose de très très beau. Il dit, écoutez bien, et après je vous laisse, il dit, tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Eh bien ça, c'est encore un moyen de recevoir l'Esprit Saint. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous servez quelqu'un sur terre, ou au ciel, en pensant à vos défunts, priant pour eux, eh bien vous touchez Dieu. Donc vous recevez l'Esprit Saint. Vous êtes établi en contact avec Dieu quand on sert l'autre. On est évidemment établi en contact avec Dieu quand on pose un acte de foi, d'espérance ou de charité, quand Dieu nous touche directement dans les sacrements, mais aussi quand nous nous aimons les uns les autres et quand nous nous servons les uns les autres, tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Donc en faisant cela, en faisant une BA, comme on dit aux autres, tous les jours, eh bien vous recevez aussi l'Esprit Saint. Ça s'enracine dans la grâce de votre baptême pour être capable de sanctifier les autres et d'être sanctifié par eux.
Alors, donc j'espère que vous avez noté tous les textes. Oui. Je vais redonner la parole au Père pour qu'il vous redonne. Tiens, maintenant, vous allez vivre eh bien, ce temps de cœur à cœur avec Dieu qu'on appelle la Lectio Divina. Donc, chacun, vous allez renoter, parce que peut-être que certains n'ont pas tout noté. Donc, vous allez renoter les passages de l'Évangile que le Père vous a donné, et vous allez les méditer en vous demandant comment vous pouvez vous aussi vous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Comment vous allez pouvoir l'accueillir? Comment vous allez pouvoir être son collaborateur? D'accord? Donc vous notez ces trois questions. Comment je vais me mettre à l'écoute de l'Esprit Saint? Comment je vais me mettre à l'écoute de l'Esprit Saint? C'est quoi le deuxième? Ce que tu dis? À l'écoute de l'Esprit Saint. Ensuite,
comment je vais pouvoir l'accueillir?
Ça ressemble un peu, mais voilà. Et ensuite, comment je vais être son collaborateur? Ce que le Père vous a dit à la fin. Tout ce que je fais au plus petit, hein, c'est à moi que je le fais. Donc pour ça, je suis habité de l'Esprit Saint. Comment je vais écouter l'Esprit Saint, l'accueillir, et ensuite être son collaborateur. Voilà. Alors, renotez bien tous les passages, parce que les passages que le Père vous a donnés, vont vous servir. Alors, oui.
Pour ce qui concerne la foi et autres vertus théologales, Matthieu 16, 13 à 20. Pour ce qui concerne le baptême et la confirmation et les autres sacrements, vous pouvez aller voir Jean 7, 37, 39, que vous mettrez en parallèle avec Jean 19, 31, 37. Je recommence. Jean 7, 37, 39. Celui-là, je vous l'ai lu. Vous mettrez en parallèle avec Jean 19, 31, 37. Et le numéro complémentaire, Jean 20, verset 22. Ces trois passages de Saint Jean, vous les mettez bien en parallèle. Je tiens beaucoup. Jean 7, Jean 19, Jean 20. Vous avez bien été les versets. Ensuite, donc je vous ai dit Matthieu 25, verset 31 et suivant. Et puis notez, enfin, 25. Ensuite, vous irez voir dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 37 à 41. Ça, c'est pour l'Église, c'est pour le baptême. Et puis, Actes 10, 44, 48. Oh, vous n'aurez jamais le temps pour tout. Ben, comment on va faire alors? On va commencer. Et puis,